Quelle joie de se retrouver. C'est un peu le fil rouge de notre culte ce matin, la joie. Alors ça parle peut-être à certaines personnes, parents qui ont eu des enfants, qui ont des enfants, ou vous-même qui étiez enfant. Alors il y a aussi pour les papas. On reconnaît peut-être nos garages de temps en temps. Hein. Il y a aussi pour les mamans. On préfère peut-être quand même ça ou ça. Ou ça, ça apporte quand même une certaine satisfaction lorsqu'on est passé de l'un à l'autre. Même si on sait que souvent, quelques jours après, on risque de retrouver l'état des premières photos. Mais quand même, d'avoir fait ce rangement, d'avoir remis les choses en place, que ce soit beau, accueillant, ça fait plaisir, ça réjouit. Et ce matin, on va voir aussi que finalement tout ce parcours qu'on a pu voir déjà dans Néhémie, tout ce qui a été fait, tous les changements opérés, vont finalement aboutir à une grande satisfaction, à une grande joie, et bien plus encore. Et je vous invite donc à prendre ce matin le texte dans Néhémie 12, à partir du verset 27 à 47, dans ces Bibles-là. C'est à la page 342, dans les Bibles que vous avez au fond. Néhémie 12, 27 à 47. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites, où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants de louanges, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages des Netophatiens, de Bel-Gilgal, ainsi que du territoire de Geba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les lévites se sont purifiés eux-mêmes, puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter les chefs de Juda sur la muraille et j'ai mis en place deux grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille vers la porte du fumier. Derrière lui marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Judas, Benjamin, Shemaya et Jérémie, ainsi que parmi les prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, et descendant de Shemaya, Matania, Miché, Zakour et Azaph, avec ses frères Shemaya, Azaraël, Milalai, Gilalai, Maï, Nathanaël, Judas et Anani, qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Le scribe Esdras marchait à leur tête. À la porte de la source, ils ont gravi, droit devant eux par les marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux située à l'est. Le deuxième cœur a pris la direction opposée. Je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, il est allé jusqu'à la muraille large et a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les deux cœurs ont pris place dans la maison de Dieu. Et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient. Ainsi que les prêtres Eliakim, Meseja, Minyamin, Miché, Eliogénéaï, Zacharie, Anania, munis de trompettes, et Maseja, Shemaya, Eleazar, Uzi, Yokanan, Malkija, Elam et Ezer. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jisraya. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances, et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes, et on les a chargés d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux lévites, au nom des divers territoires. En effet, Judas se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et des purifications. Quant aux musiciens et aux portiers, ils respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. En effet, à l'époque de David et d'Asaph, déjà, cela faisait bien longtemps, il y avait des chefs de musiciens ainsi que des chants de louanges et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel, comme à celle de Néhémie, tout Israël faisait don des parts journalières destinées aux musiciens et aux portiers. Il donnait aussi aux Lévites les éléments consacrés et les Lévites les redistribuaient aux descendants d'Aaron. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'on a déjà pu entendre et proclamer ce matin. Que toi, tu es le centre, que tu es celui qui a permis que nous puissions nous tenir devant toi, qui a permis que nous soyons restaurés, que nous puissions revenir à toi, avoir un accès direct. Merci aussi parce que tu nous laisses tes instructions et tu veux que nous progressions ensemble sur le chemin avec toi et tu nous donnes la force d'y parvenir. Ouvre les oreilles de mon cœur, que je puisse ce matin grandir, avancer avec toi sur le chemin qui mène à toi, dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous allons aborder ce texte en considérant chaque fois sous trois angles, celui du peuple d'Israël d'abord, celui de l'Église et nous-mêmes. Il est bien évident qu'on a affaire ici à une méga fête, comme il n'y en a pas eu si souvent pour le peuple d'Israël d'ailleurs. En effet, relaté dans les écrits, on en trouve cinq. Lorsque David ramène l'arche de l'Alliance à Jérusalem, c'est dans 2 Samuel 6, lors de la dédicace du temple de Salomon, dans 1 Roi 8, lorsque les fondements du temple furent posés après le retour de l'exil, donc à la même période que notre histoire de Néhémie et de la muraille, ça se trouve dans Esdras. Lors de la dédicace du temple, toujours dans cette même période du retour d'exil, dans Esdras 6, et dans notre texte d'aujourd'hui, lors de la dédicace de la muraille. Trois de ces cinq fêtes se déroulent dans la période qu'on est en train de voir, le retour de l'exil. Alors ce qui est intéressant avec ces fêtes, c'est qu'elles sont spontanées. On ne parle pas ici des fêtes qui sont prévues par les ordonnances. Non, c'est des fêtes spontanées. Elles sont faites parce qu'il y a une occasion particulière de se réjouir de ce que Dieu a fait, de ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose de prévu par les ordonnances. Et la deuxième chose intéressante avec ces fêtes, c'est que la joie manifestée était toujours en rapport avec la maison de Dieu. Alors pourquoi cette fête? Pourquoi cette adoration? Et on va se placer d'abord sur l'angle du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui fait leur joie? Verset 43. Car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. C'est Dieu la source de leur joie. C'est à la gloire de Dieu qu'ils expriment une adoration entière, vivante, visible. Maintenant, quelles sont les étapes que le peuple a franchies avant d'en arriver à faire cette fête? Et il suffit de regarder ce qu'on a vu dans les derniers chapitres. On va donc rapidement le survoler. Qu'est-ce qu'ils font d'abord quand ils reviennent? Ils construisent la muraille. Début du livre des Néhémies. Symboliquement, ils se séparent des autres nations, marquant leur différence. Ils sont dans ce monde, mais ne sont pas du monde. Et en partie, cette muraille leur sert à quoi aussi? À se protéger. Ils mettent en place des gardes, etc., contre les attaques de l'ennemi. Ensuite, ils reviennent à la parole. Reconstruction de la muraille. Ils reviennent à la parole, au chapitre 8. Lui redonnent la place dans leur culte, dans leur vie. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Face à ça, la vérité, à l'enseignement de la parole, ils se repentent, ils s'humilient, demandent pardon à Dieu qu'ils ont offensé lorsqu'ils l'avaient laissé de côté, oublié presque. Puis ils s'installent, c'est ce qu'on a vu au chapitre 11. Ils veulent vivre l'unité, prendre leur place parmi les autres, chacun dans son service, notamment des personnes responsables. L'ordre peut paraître secondaire de ce qui se passe, mais pas du tout. Avant de pouvoir faire la fête, se réjouir, rendre pleinement gloire à Dieu, il fallait qu'il passe par ces différentes étapes. Pour reprendre l'image que je vous ai donnée au début, les Israélites de retour ont rangé la chambre. Ils ont nettoyé, déplacé, changé ce qui était à changer, remis en place ce qu'il devait l'être. La pièce est en ordre. Ils sont dans la joie. Ils peuvent faire la fête. Et pour l'Église. Pendant tout le long de notre étude du livre de Néhémie, on a fait un parallèle évident avec ce que nous pouvons, devons vivre au sein de l'Église et ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui fait notre joie? Est-ce que comme le peuple de Dieu, c'est Dieu qui fait notre joie? Est-ce que c'est lui la source de notre joie? Et nous pouvons même franchir un pas de plus que le peuple à cette époque. C'est que non seulement Dieu fasse notre joie, mais Jésus-Christ, et on l'a encore proclamé ce matin. Que lit-on dans Philippiens 4:4? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce qui fait notre joie? Est-ce qu'en tant qu'assemblée, nous veillons ensuite à la manière dont nous abordons notre louange, notre reconnaissance, notre joie? Est-ce que nous veillons les uns, les autres, et nous aussi, tout particulièrement aussi, les responsables dans tous les domaines, à ce que notre limite, notre muraille avec le monde soit claire? À ce que nous ne laissions pas rentrer le monde dans notre culte. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas accueillir les personnes. Au contraire, évidemment. Mais est-ce qu'on doit laisser les choses du monde, les pensées du monde, les pratiques du monde rentrer dans notre culte, dans notre église? Est-ce que dans notre culte, nous cherchons à plaire aux hommes? Est-ce que nous tolérons tout sous couvert de l'amour du prochain? Ou bien est-ce que nous osons monter les murailles que Dieu nous demande de ne pas laisser franchir? Dans 1 Jean 2, 15-17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Deuxième point, est-ce que nous prêchons la parole? Rien que la parole. Et ce n'est pas que la responsabilité de ceux qui viennent ici devant ou du conseil pastoral, même si ça fait partie de leur rôle. Mais c'est aussi la responsabilité de chacun de vérifier si ce qui est enseigné, pratiqué, est biblique. On peut aller plus loin. Est-ce que nos projets, ce que nous faisons, organisons, prions, chantons, est fondé sur la parole? Nous avons un exemple dans la Bible, dans Actes, avec les chrétiens de Bérée. Acte 17, verset 11. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et pour nous donner un exemple concret dans notre église, le groupe de louanges s'est déjà réuni 2-3 fois, je ne sais pas, peut-être même plus, pour examiner les paroles des chants que nous chantons. Le faisons-nous dans les autres domaines aussi? Point suivant. Est-ce que nous reconnaissons nos manquements? Est-ce que nous nous humilions devant Dieu? Est-ce que nous vivons la repentance et le pardon entre nous? C'est pas facile, lui. Mais osons-nous aller les uns vers les autres pour régler ce qui va pas? Difficile d'être joyeux dans de telles situations. Est-ce que notre Église s'engage, comme dans Néhémie 10, à suivre la voie que le Seigneur veut pour nous? Est-ce que nous restons dans nos habitudes, notre train-train? Oh, on a toujours fait comme ça. Ou bien nous acceptons de venir, de revenir à ce que le Seigneur nous enseigne, à ce que lui veut pour notre église de Wittenheim. Point suivant, est-ce que nous vivons l'unité dans notre église? Et dans Néhémie 11, il y a une action menée par le peuple. Ils vont s'installer. Il y a un mouvement. Souvent, c'est facile à dire, l'unité, oui, on est unis. Mais est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que nous mettons en œuvre? Est-ce que nous travaillons cette unité? Est-ce que nous la vivons concrètement, en dehors du culte du dimanche matin? On a beaucoup parlé de communion fraternelle, de se voir les uns les autres, s'aider, s'entraider, se réjouir ensemble, pleurer ensemble. Le troisième plan, nous-mêmes, individuellement. Là aussi, dans ma vie quotidienne, personnelle, qu'est-ce qui fait ma joie? Le merveilleux plan de Dieu pour moi, comme on l'a encore entendu. Samuel nous a rappelé. L'œuvre de mon Sauveur et Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ fait ma joie? personnellement, tous les jours. Deuxième point, on parlait de la muraille. Est-ce que je veille personnellement aux barrières que je mets avec le monde? On est des fois un peu plus tolérant dans notre vie personnelle qu'on ne le saurait à l'église, parce qu'on se surveille les uns les autres, on s'observe. Mais dans la vie privée, est-ce que je sais construire la muraille entre ma nouvelle nature d'enfant de Dieu de la nature du monde? Est-ce que je veille à ce que j'écoute? Émissions, radio, musique, à ce que je regarde, télévision, films, séries, à ma manière de conduire sur la route et de me conduire à la maison, dans mon voisinage, à l'école, au travail. Est-ce que la parole de Dieu a sa place dans mes journées? Est-ce que j'ai soif de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu? Le psalmiste dira dans le psaume 119, qui est centré sur la parole, au verset 10-12, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. » Est-ce que comme le psalmiste, on a soif de ça? Est-ce que je suis prêt à prendre un nouvel engagement avec mon Seigneur, à signer une nouvelle alliance? Est-ce que je suis prêt à lui laisser la main, à obéir à ses ordonnances dans ma vie, à lui faire confiance totalement, en mettant de côté ma propre intelligence, ma propre pensée, mes sentiments, mes désirs, mon envie de contrôler? On aime ça dans notre nature. Est-ce que je peux dire non, une nouvelle alliance avec toi, je te laisse? Est-ce que je reconnais mes fautes, mes manquements envers Dieu, envers les gens, les frères et sœurs, les gens du dehors? Est-ce que je demande pardon à mon frère? Est-ce que je demande pardon aux non-chrétiens que j'ai pu offenser? Des fois, on se dit, oh, il ne le sait pas forcément. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, cela ne me dérange pas de vivre avec des tensions ou des conflits? Oh, finalement, c'est la vie, hein. On est dans ce monde, c'est pas simple. Ou bien est-ce que je suis un artisan de paix, d'unité, là où je suis? Là aussi, mon adoration, ma joie, dépend de ma manière de gérer ces différentes choses dans mon quotidien. Comment notre Église pourrait-elle vivre une adoration véritable, une joie réelle, si dans nos vies personnelles, nous ne sommes pas en mesure de le faire? Venons maintenant à l'expression de cette adoration, l'expression de cette joie. Et c'est notre texte d'aujourd'hui en particulier qui parle de ça. Comment est-ce que va exprimer le peuple de Dieu cette joie, cette adoration? Le peuple cherche les Lévites, les musiciens, les représentants du culte, tous, de partout. Impensable de faire cette fête sans que tous soient là. C'est le début de notre texte, versets 27-29. On va les chercher. Les chanteurs, les musiciens, les responsables de louanges, tous doivent être là. Comment aller s'exprimer cette fête joyeuse? Avec des chants de louanges, c'est écrit. Là aussi, des instruments, cymbales, luth, instruments à cordes, tous les instruments qu'ils avaient. Que font les prêtres? Au verset 30. Que font les prêtres et les lévites? Ils se purifient, eux-mêmes d'abord, puis le peuple, puis les portes et la muraille. Troisième chose, sont mis en place deux grands cœurs. C'est une grande partie du texte, c'est très détaillé. Deux grands cœurs, avec tout le cortège, versets 31-39. Ces deux cortèges cheminent sur un chemin opposé, mais un chemin bien précis, sur l'ensemble de la muraille, en passant par les différentes portes, et se rejoignent où? Ils font comme ça, et se rejoignent où? Au temple, au centre. Au temple, verset 40, puis les deux cœurs ont pris place dans la maison de Dieu. Ce parcours fait le tour complet, en deux moitiés de la muraille, et se finit là où se trouve celui qu'ils veulent glorifier, celui qui fait leur joie, le centre, Verset 43, s'ensuit une grande réjouissance. Là aussi, les instruments, ça joue, ça chante. Des sacrifices de bonne odeur à Dieu. Précision qui apparaît régulièrement dans le livre de Néhémie, c'est la présence de tout le peuple. Toute génération, hommes, femmes, enfants. Cette réjouissance s'exprimera par des chants de reconnaissance et de louanges. Cette joie était tellement intense qu'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. Au-delà de la muraille, la joie s'entendait. Et comment s'exprime enfin cette adoration du peuple d'Israël, cette joie, versets 44 à 47, en offrande matérielle, les prémices, mais aussi la dîme, les dons. Ce don de la part mise de côté, qui revient à Dieu, a ici sa place entièrement, dans la fête, dans l'expression de leur joie, de leur adoration. Pas de jugement. Tout cela se fait en pleine liberté, dans la joie, en public, dans des grandes salles, carrément. Tout Israël faisait don des parts journalières. Et quelle est aussi la chose mise en avant ici? C'est la remise en place des personnes dédiées à cette partie de l'adoration. La gestion de toutes ces offrandes pour subvenir aux besoins des prêtres, des lévites, des musiciens. Les lévites redistribuaient, au verset 47, aux descendants d'Aaron. On gère tout ça, c'est pas juste. Pour l'Église maintenant. Plus de prêtres ou de lévites dans nos églises. Par contre, comme nous l'avons aussi déjà vu ensemble, notre Seigneur n'a pas laissé l'Église sans structure. C'est un corps ordonné. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et des responsables sont mis en place. Conseil pastoral, diacre, responsable d'activité, de domaine. Le peuple est allé chercher les lévites, les chantres, les musiciens. Est-ce que nous sommes, nous, à la recherche de personnes pour prendre des responsabilités dans notre Église? Est-ce que c'est un sujet qui habite nos prières? Ou est-ce qu'on se dit, bon, ils vont bien s'en occuper, les autres. J'attends qu'ils me proposent, puis je regarde. Est-ce que nous prenons le temps collectivement, dans la connaissance, la prière, lorsque l'Église se prépare à choisir quelqu'un dans une nouvelle responsabilité? On a encore vécu avec Paul, bientôt les diacres. Notre règlement intérieur propose une telle démarche pour les anciens et les diacres. Mais qu'en est-il des autres responsabilités? Sont-elles moins importantes? Comment l'Église s'implique dans la recherche, le choix de nouvelles personnes pour les différentes responsabilités? Et il y a plein de domaines, plein de secteurs où on cherche des personnes qui veulent prendre des responsabilités. Les prêtres et les lévites se sont purifiés, ont purifié le peuple, les portes, la muraille. Alors là, une grande différence avec nous, car encore une fois, nous avons Jésus-Christ qui est venu déchirer le voile, qui séparait le peuple de Dieu. Par son œuvre, sa mort, sa résurrection, sa victoire sur le péché, sur la mort, le mal, il a accompli une fois pour toutes tous les rites de purification nécessaires pour nous approcher de Dieu. Nous avons donc aujourd'hui en tant qu'Église un accès direct au Père, par Jésus. Mais est-ce que nous en usons? Est-ce que nous sommes conscients que chaque fois que l'Église se réunit, le Seigneur, notre Dieu, est là parmi nous? Est-ce que lorsque nous nous réunissons entre frères et sœurs, nous faisons tout comme si Jésus lui-même était présent dans la rencontre? Essayez de vous imaginer qu'on vous dise dimanche prochain, dans notre église à Wittenheim, Jésus va nous rendre visite. Waouh! Comment est-ce qu'on se comporterait? Comment est-ce que nous vivrions ce temps? Comment est-ce que je me préparerais à une telle rencontre? Dans quel état d'esprit je viendrais au culte? Et cela passe autant par mon extérieur que par mon intérieur. Et bien pourtant, c'est ce qui se passe à chaque fois, chaque dimanche, chaque fois que nous nous réunissons. Alors rendons-le heureux de voir son Église, sa promise. Comme dira Paul aux Éphésiens 5, 27. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Waouh, quel défi! Quel défi! Sommes-nous prêts à le relever tous ensemble? Concernant le parcours dans la cité, sur les murailles, comment est-ce qu'en tant qu'église, nous vivons notre louange? Est-ce que, comme avec Néhémie, notre louange, notre adoration est ordonnée? Ils avaient tous une place bien particulière. Ils ont passé par un chemin bien précis. Chacun avait sa place dans le cortège. Le parcours était là, donné. L'ensemble des deux cœurs était uni. Ils avaient un chemin opposé, mais ils étaient unis. Ils se sont retrouvés au centre. C'est aussi ce que nous essayons de vivre maintenant, depuis un certain temps, dans notre culte, que les choses soient à leur place, se suivent de manière fluide, homogène, reliées les unes aux autres. Mais nous avons encore tous à nous améliorer ensemble dans ce domaine. Laissons-nous diriger par celui qui est à la tête du cortège, à la tête de l'Église, notre Seigneur Jésus. Paul dira aux Corinthiens, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, c'est ce qu'il nous a lu en introduction, Josué. Non seulement il est la tête, en effet, mais que fait le peuple ensuite? Que font les deux cœurs à la fin du parcours? Ils se retrouvent ensemble au temple, au centre, dans la présence de Dieu. Christ est non seulement la tête, mais il est aussi le centre, là où nous devons tous nous retrouver. Plaçons fidèlement Christ au centre de nos rencontres. C'est à lui que revient la gloire et l'honneur. Alors le peuple peut laisser éclater sa joie. Les trompettes sonnent, les chœurs chantent, les musiciens se font entendre, de nombreux sacrifices sont offerts. Tout le peuple en entier, avec femmes et enfants, est dans la joie. Et que se passe-t-il? On a entendu au loin les cris de joie de Jérusalem. Et nous, Église, est-ce que nos rencontres, notre culte, passent inaperçus? Est-ce qu'ils sont ternes? Ne témoignent pas de la joie qui nous habite? Notre joie d'enfant racheté de Dieu? Ou bien est-ce que notre reconnaissance, notre joie, notre adoration s'entend au loin? Est-ce que l'église évangélique de Wittenheim est connue, reconnue pour la grande joie qu'exprime l'assemblée? Nous sommes tous ensemble responsables de l'image de notre église en dehors. Alors faisons en sorte que, comme du temps de Néhémie, on entende au loin les cris de joie de l'église de Wittenheim. Enfin, vivons nous aussi, comme dans notre texte, un petit plus, et nous avons eu l'occasion d'en parler ces derniers temps ensemble. Comment le peuple exprime de manière tout à fait naturelle son adoration, ce temps de réjouissance, c'est la continuité. C'est à ce moment-là qu'on a désigné, c'est à ce moment-là, ça fait partie. En donnant la part qui revient au Seigneur, cette part matérielle à laquelle on s'attache si facilement. Est-ce que comme le peuple, nous réalisons à nouveau que rien de ce que nous avons nous appartient? La terre entière, tout ce qui s'y trouve appartient à notre Dieu. Alors quoi? On ne serait pas en mesure de lui donner en retour ce qui est déjà à lui pour le remercier? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous pensons à nos biens, à ce qui nous appartient, et je parle en tant qu'Église, au fonctionnement seulement de notre Église? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment, ça fait partie de notre fonctionnement. Ou bien est-ce que nous sommes prêts aussi, intentionnellement, à redonner au Seigneur, donner pour les serviteurs de Dieu, comme ils l'ont fait, redistribuer à d'autres, pour ceux qui, en dehors de notre Église, en ont besoin? Quelle est la part de notre offrande à Dieu en tant qu'Église? Comment gérons-nous les biens de l'Église de Wittenheim? Et c'est pas la peine de courir après vers Gilbert. Il faut lui demander des comptes. On est bien content qu'il soit là, c'est encore l'occasion de le remercier. Mais c'est à nous, Église, dans son ensemble, de faire ces choix-là. Est-ce que, oui, intentionnellement, nous voulons donner à d'autres, pas que à nous? Pour nous-mêmes, et c'est ce qui me servira de conclusion, pour nous-mêmes. Comme rappelé juste avant, Dieu est un Dieu d'ordre et a un plan bien défini dans son Église. Et pour chacun, alors est-ce que nous serions prêts à remettre en question notre engagement, notre service, si le Seigneur nous demandait de prendre une responsabilité. Ou bien je me considère pas apte, je n'ai pas les qualités, je suis trop timide, j'arriverai pas. Je préfère laisser la place aux autres. C'est trop de contraintes, trop de responsabilités, c'est pas pour moi. Ou bien lorsque le Seigneur m'appelle, je me lève, je lui fais confiance. Lorsqu'il dira à Josué par exemple, « Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Deuxième aspect par rapport à la responsabilité, est-ce que je suis prêt à suivre les personnes en responsabilité que l'Église a choisies? En d'autres termes, est-ce que je me soumets à l'autorité de l'Église dans ses choix, dans les directions prises, même si c'est parfois parce que j'aurais choisi personnellement, souhaité? Plus dur, n'est-ce pas? Est-ce que je soutiens tous les responsables en place, conseil pastoral, diacre, responsable de domaine, d'activité? Est-ce que d'ailleurs même je les connais tous? Alors, je ne vous mettrai pas au défi ce matin de me faire la liste des responsables, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Mais posez-vous la question. Est-ce que je les connais, les responsables? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je les encourage? Comme pour l'Église juste avant, nous vivons dans un temps différent du peuple, car nous vivons sous le temps de la grâce. Si donc j'accepte de reconnaître mon besoin de Jésus dans ma vie, je deviens une nouvelle personne. Enfant de Dieu, pardonné, justifié, purifié par le sang du Christ. Est-ce que pour autant tout est accompli? Pour mon salut, oui, sans aucun doute. Mais n'oublions pas que nous ne serons que parfaitement purifiés. À quel moment? Lors de son retour. Lorsqu'il reviendra nous chercher. Dans ce temps intermédiaire, nous vivons dans une période un peu particulière où il y a cette tension, oui, entre mon ancienne nature, ce que la Bible appelle la chair, et ma nouvelle nature en Christ, née de nouveau. C'est la tension du déjà et du pas encore. Je suis déjà, mais pas encore. Pendant ce temps-là, c'est pas les vacances. C'est pas les vacances. Alors oui, nous vivons sous la grâce, mais que dira Jacques 2, 14, 17? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et allez vous rassasier », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien sûr qu'il y a la grâce, mais en parallèle de tous ces passages, qui parle de la grâce, n'oublions pas tous les passages qui s'accompagnent de verbes à l'impératif. Et Samuel nous a encore lu un texte où il y a beaucoup d'impératifs. Allez, faites, changez, soyez, ne vous conformez pas, grandissez, partagez, aimez-vous. C'est des verbes à l'impératif qui demandent quoi? Une action de notre part. Oui, ma nouvelle nature, ma foi, implique inévitablement des changements dans ma vie. Ça doit se voir, et là encore, ce n'est pas par mes propres forces que je vais y arriver. C'est le Seigneur lui-même qui nous donne la volonté, la force d'y arriver. Concernant le parcours, le cortège, nous avons vu que l'ensemble était bien ordonné. Alors est-ce que j'ai ma place dans ce cortège? Ou plutôt, est-ce que je prends ma place dans ce cortège? Mais quelle place? Ce serait bien s'il y avait une petite annote pour chacun. Quelle place? Il y a un petit détail qui nous aide dans ce domaine, dans le texte qu'on a lu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais où se trouve Néhémie dans le cortège? Et quelle place donne-t-il aux autres? J'ai entendu? Derrière. Derrière. Je marchais moi-même, verset 38, derrière lui, avec l'autre moitié du peuple. Et quelle place il donne à Esdras? La première place, verset 36. Pourtant, il mériterait bien d'être à la première place, Néhémie, non? Avec tout ce qu'on a vu déjà. Est-ce que j'aime bien prendre la première place du cortège et laisser les autres derrière? Ou bien comme Néhémie, qui le méritait certainement plus que les autres, je laisse la première place à mon frère, à ma sœur, et je me place à la fin du cortège. J'ai pas dit que j'ai pas de place, j'ai une place. Comment je gère mon image, mon ego, mon besoin de reconnaissance, et on en a tous besoin de reconnaissance, comme une priorité, et je me mets en avant dès que c'est possible, ou bien je fais les choses sans rien attendre en retour, sans intérêt propre. C'est la définition de quel mot, ça aussi? Faire les choses sans attendre en retour. L'amour. L'amour. Et cet amour vient d'où? De là où se trouve le peuple à la fin de son parcours, le centre. Dieu, Jésus-Christ. C'est alors le moment de vivre cette grande joie, de me rendre compte que j'ai tout en Christ, quoi qu'il m'arrive pendant le temps où je vis sur cette terre. Je suis dans la joie d'être sauvé, enfant de Dieu, héritier de la vie éternelle à ses côtés. Voilà ce qui devrait se voir dans nos vies de tous les jours. Est-ce que cette joie se voit sur nos visages, dans nos vies, dans notre couple, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre école, dans notre travail, ailleurs? Est-ce que le monde qui m'entoure perçoit cette joie qui est en moi? Et en bonus, comme pour l'Église, est-ce que mon adoration s'exprime aussi de manière concrète, dans la reconnaissance, dans l'offrande que je donne volontairement à Dieu? Est-ce que je suis libéré de ce qu'essaye de nous faire croire le monde? Le malin, Satan, il essaye de nous faire croire que la loi de ce monde, c'est vendre pour acheter, posséder. Je vends pour acheter. Je vends mon temps, je vends mes compétences, je reçois un salaire pour acheter. Mais la loi du royaume de Dieu, elle est complètement différente. Donnez et vous recevrez. Donnez et vous recevrez. Donne de ton temps, donne de ton argent, donne de tes compétences, donne de tes dons. Et je te donnerai en retour. Tu recevras des bénédictions incroyables. Mettez-moi à l'épreuve. Et regardez si j'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Waouh. C'est diamétralement opposé. Mais nous devons le comprendre afin de ne plus être dépendants de cette loi du monde, mais de celle du royaume de Dieu. Et notre offrande, notre manière de rendre à Dieu ce qui lui appartient déjà et ce qu'il nous donne est un moyen pour vivre pleinement le royaume de Dieu. Un verset très connu dans Matthieu 6, 31-33. « Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notre compréhension des lois qui régissent le royaume de Dieu vont nous permettre de changer notre échelle de valeur, de voir notre offrande, notre culte, notre adoration à Dieu différemment. Alors laissons-nous modeler, changer par lui, dans tous les domaines que nous avons abordés ce matin. Que ces choses, toutes concrètes, ne viennent pas juste frôler nos oreilles, mais que nous puissions les mettre en pratique et qu'elles puissent changer nos cœurs. À quoi ressemble notre quotidien? À ça? Ma vie d'enfant de Dieu? Ou à ça? Pour sa gloire. Amen.